Place publique.
L'autoroute A16 est enfin achevée entre Bienne et Boncourt. Un gain de temps non négligeable pour les automobilistes et par conséquent des opportunités pour le développement de la région, plus accessible que jamais. Vous en faites même peut-être en ce moment l'expérience. Mais de quel développement parle-t-on? Le Jura bernois risque-t-il de devenir une région dortoir? On en parle avec deux responsables de communes directement concernées. Ils sont de Cours et de Reconvilliers. La 16, eh bien, ça a aussi inspiré notre humoriste Jérôme Moutet. Vous l'entendrez tout à l'heure, après le flash de 18h30. Le paysage politique neuchâtelois n'est plus le même après les élections cantonales de dimanche. Si la stabilité l'emporte au Conseil d'État, on ne peut pas en dire autant pour le Parlement, où la majorité est plus incertaine que jamais. On va analyser tout ça, la nouvelle donne, avec trois journalistes, des observateurs avisés de la question. Et en ce jour de Journée mondiale de la santé, on évoquera une maladie très répandue, mais bien souvent mal soignée, la dépression. Deux spécialistes nous aideront à mesurer l'ampleur du phénomène en Suisse, ses causes, mais aussi les outils pour s'en sortir.
Jusqu'à 19h, place publique. Gabriel Devecq.
Bonsoir à tous. Semaine historique pour l'arc jurassien. Le tout dernier tronçon autoroutier de la Transjurane a ouvert lundi à la circulation. Plus nécessaire de sortir à Levresse si vous souhaitez par exemple aller de Bienne à Porrentruy ou encore si vous voulez vous rendre de Delémont à Neuchâtel. C'est plus nécessaire de sortir à Cours et de traverser les villages de la vallée de Tavannes. Alors bien sûr, du confort pour vous les automobilistes, de la tranquillité retrouvée pour les communes concernées et surtout une région qui gagne en attractivité, plus proche que jamais du reste de la Suisse. Les bases sont donc posées pour un développement démographique et économique. Mais en pratique, y a-t-il un risque que la région se transforme en cité dortoir? Quel avenir pour le commerce de proximité dans certains villages? Des questions qu'on a envie de poser à nos deux invités, à commencer par Jean-Luc Niederhauser, maire de Cours. Bonsoir.
Bonsoir.
Et Marc Voiblet à vos côtés, vice-maire de Reconvilliers. Bonsoir.
Bonsoir.
Jean-Luc Niederhauser, ça fait maintenant 5 jours que l'autoroute est ouverte au trafic entre votre commune et Levresse. Déjà, qu'est-ce que vous en pensez et est-ce que vous avez déjà perçu des changements ?
Oui, naturellement, on a perçu un net changement, notamment au niveau du trafic poids lourd. Le trafic a bien diminué et puis ça devient extrêmement agréable de circuler dans les villages. Les traverser, que ce soit à pied ou en voiture, c'est moins chargé.
Donc moins de nuisances ?
Moins de nuisances, ça c'est sûr. Et puis peut-être un peu une perte pour les commerces, spécialement peut-être les boulangeries. Je pense que les boucheries seront moins touchées par ça, mais les boulangeries pour les employés qui allaient travailler, qui s'arrêtaient pour acheter les 9 heures, peut-être que là, il faudra un tout petit peu réinventer le métier, mais autrement, c'est très agréable.
Eh bien, on va en parler, de ces commerces de proximité. Marc Voiblet, même question à vous. Est-ce qu'à Reconvilliers, est-ce que vous avez mesuré un effet autoroute immédiat?
Alors, l'effet immédiat, c'était bien entendu les poids lourds. Pour nous, c'était nettement beaucoup plus viable par rapport à notre municipalité et notre commune. Mais par contre, le souci qu'il y aura, c'est par rapport aux stations à essence et aux boulangeries, bien entendu. Mais les stations à essence, c'est qu'il n'y aura plus tous ces poids lourds qui circulent dans notre vallée pour prendre l'essence. Puis c'est 400-500 litres par plein. Voilà.
Des stations essence donc, qui se trouvent tout le long du parcours entre ces communes par lesquelles on devait passer avant que ce tronçon soit ouvert à la circulation. Comment vous voyez la suite pour ces fameuses enseignes ?
Alors disons que moi la suite c'est s'il y a trop d'employés, je pense qu'il y aura automatiquement des licenciements ou il y aura peut-être des engagements ailleurs où il y aura encore un tronçon qui peut être fait de route communale ou comme ça. Mais je vois pas trop comment ça va se passer sur la longueur.
Il y a un petit paradoxe quand même. Restons sur ces stations d'essence, c'est bien pratique. Marc Voiblet, il y a beaucoup de stations d'essence qui n'auront peut-être plus assez de clients, alors que sur l'autoroute A16, cette fameuse Transjurane, eh bien, il faut vraiment se concentrer pour les compter, ces stations d'essence. Il n'y en a pas beaucoup entre Bienne et Boncourt.
Alors, ça veut dire que le premier projet de la A16, si vous vous souvenez bien, il y a 35 ans en arrière, il y aurait eu une aire de repos à Reconvilliers avec une station à essence et aussi pour pouvoir se divertir. Vu qu'il y avait comment c'était pris de Bienne, ils ont dit que ça ne valait pas la peine de le faire, mais c'est vrai qu'il y a quand même une heure de route jusqu'à Boncourt et puis c'est très long.
Et ça, cette fameuse aire n'est plus d'actualité?
Non, il n'y a plus du tout, vu que la A16 est terminée. Pour nous, c'est fini. Il y a ce qu'il y a là et c'est tout.
On va maintenant peut-être prendre un peu plus de recul. Il y a ce souci immédiat pour les commerces de proximité, pour les stations essence, on y reviendra. Mais quel effet vous prévoyez à plus long terme? À quoi vont ressembler, par exemple, vos communes dans 10 à 15 ans, grâce ou à cause de cette autoroute?
Alors, disons, sur la longueur, sur les 15 prochaines années, le problème, c'est qu'il y aura un effet démographique qui va se faire. Il y aura beaucoup de monde qui va venir s'installer dans nos villages. Si, bien entendu, on a encore du terrain constructible, ce qui est pour plusieurs communes plus le cas par rapport à la loi de l'aménagement du territoire. Et puis sinon, il faudra absolument pour amener des commerces dans la région. Parce qu'amener des gens sans commerce, ben, c'est là qu'on va faire une cité dortoir.
Jean-Luc Niederhauser, vous partagez ce constat ?
Oui, je partage ce constat. Disons que on voit quand même que Tavannes a plus de recul, puisque la Transjurane est au port de Tavannes depuis un moment. Il y a eu forcément une augmentation de la population, mais en même temps, la population n'a pas doublé. Je peux m'imaginer qu'à court, ce sera pareil, peut-être même un petit peu moins, étant donné qu'on est un peu plus loin de Bienne, il n'y aura pas un débordement urbain énorme. Mais je peux m'imaginer quand même qu'il y aura une accentuation de la démographie.
Donc ni l'un ni l'autre ne vous attendez à un boom démographique ?
Je ne crois pas à un boom démographique. Par contre, on nourrit beaucoup d'espoir par rapport à notre zone industrielle, puisqu'il y a la jonction qui arrive en son cœur, et puis on a un peu plus de 10 000 mètres carrés. Donc là, j'ose espérer que finalement, il y ait un petit boom économique. Si on sort une fin de la crise qu'on est en train de traverser, après, il faudra trouver des solutions pour loger les gens. Et puis, comme l'a dit M. Voiblet, effectivement, le terrain à bâtir, il devient toujours plus petit, étant donné que les planifications cantonales, elles restreignent drastiquement les possibilités de s'étendre.
À ce jour, M. Niederhauser, est-ce que vous avez connaissance d'un projet qui va naître, qu'on ne connaît pas encore, grâce à cette autoroute ?
Alors, on a eu beaucoup d'approches dès lors où la zone est devenue constructible. Et malheureusement, c'était juste avant la crise économique. Et on a eu plein de demandes. Et puis, la crise est arrivée. Et puis, ces demandes, elles sont restées à l'état de statu quo. Et puis, depuis, on a peu de demandes. Mais on espère maintenant qu'avec avec du concret, avec l'autoroute qui est là, que ces demandes se concrétisent. Et puis, qu'on voie les premières industries venir s'implanter à court.
Marc Voiblet, qu'en est-il à Reconvilliers par rapport à cette proximité avec une autoroute qui est maintenant complète, par rapport à l'essor industriel ? On va parler encore de la croissance démographique, parce qu'il y a des projets dont on a parlé aussi, mais au niveau de l'essor économique, est-ce que ça va vous faciliter la tâche ?
Alors, par rapport à l'essor économique, le grand problème qu'on a ici, c'est déjà une présence de personnes et tout. Nous, il ne faut pas oublier qu'on a quand même eu la grève de la Boya qui a fait très mal dans l'industrie, parce qu'en tant cause de Recovier, on pense Boya, puis c'est le gros problème. Puis les ouvriers avaient raison peut-être de faire cette grève, c'est pas à moi de justifier ça, mais le problème par rapport au retour des entreprises, c'est très compliqué pour venir une entreprise externe s'implanter. Se dire que les entreprises internes s'agrandissent, mais il n'y a pas de nouvelles entreprises qui viennent dans la région. C'est ça le gros problème.
Et donc pas de signaux positifs à ce niveau-là. Par contre, les promoteurs ont l'air de prévoir une arrivée de population supplémentaire. On en a parlé tout à l'heure avec ce projet de 8 immeubles de 4 étages dont le chantier devrait démarrer l'année prochaine. Clairement, c'est lié à cette autoroute.
Alors c'est un fait, l'autoroute amènera des gens chez nous. Mais le problème de la promotion que nous avons faite, c'était vraiment faire un îlot pour les gens qui restent dans notre village. C'est-à-dire qu'on ne fait pas une cité dortoir, c'est qu'ils se plaisent dans ces petits îlots qu'on fait en haut sur le grand champ.
Vous parlez d'une cité dortoir, vous avez un peu les mêmes soucis tous autant que vous êtes. Est-ce que vous travaillez main dans la main pour tenter de juguler les éventuels effets négatifs ?
Alors, travailler de main dans la main, c'est plutôt les exécutifs qui peuvent le faire, la commission des maires, les présidents des maires. Il y a aussi la chambre d'économie publique qui peut amener beaucoup de choses. Tout le monde discute, mais en fin de compte, il faut vraiment avoir l'envie de montrer puis de faire quelque chose.
Et là, à ce niveau-là, pour l'instant, on ne voit rien venir ?
Il n'y a pas grand-chose qui se passe. Disons, on a le projet Clos-Jean-Vernier, il y a des grands blocs qui se font en direction Malleret, anciennement Scheublin. Mais dans l'industrie, il n'y a rien qui semble venir de la promotion économique du canton de Berne.
Mais rassurez-nous, tous les deux, Jean-Luc Niederhauser en tête, cette ouverture d'autoroute, c'est quand même une bonne chose. Là, on broie un peu du noir.
Absolument pas, non, c'est une excellente chose, je dirais. Simplement, il faut qu'on s'organise. À court, on est en train de revoir notre plan d'aménagement local. Malheureusement, il arrive un petit peu tard parce qu'il pourra rentrer en vigueur à partir de 2019, mais on y travaille déjà pour essayer de proposer des nouveaux logements. Et puis, malgré finalement les limitations de développement des communes par rapport au terrain, on va trouver des solutions, on va tout faire pour trouver des solutions, et puis c'est une excellente chose.
L'un et l'autre, dernière question, rapidement, les fameux commerçants dont vous avez parlé au départ, qui eux regrettent quelque part ces pendulaires, qui venaient soit acheter un croissant, soit s'arrêter pour faire des courses, qu'est-ce que vous leur dites? Est-ce qu'au final, ils seront gagnants? Jean-Luc Niederhauser.
Alors, je ne sais pas si au final ils seront gagnants, mais ils devront un tout petit peu se réinventer, peut-être aller dans les industries pour vendre les 10 heures plutôt que d'attendre les clients chez eux. Ils devront peut-être trouver des solutions. Mais je suis tout à fait confiant pour eux parce qu'ils sont très dynamiques. On a des commerces locaux qui sont excellents, puis ils sauront faire face à cette situation.
Marc Voiblet.
Alors, moi, je dirais que simplement, je suis de l'avis de M. Niederhauser, il n'y a pas de souci. Mais il faudra aussi qu'ils se diversifient par rapport à leur promotion, on veut dire des titre bio, du venir dans plus dans le bio et puis vraiment se démarquer par rapport à l'industrie, moi je dirais plutôt.
Eh bien merci à tous les deux messieurs d'être venus nous parler des effets concrets de cette ouverture d'autoroute de l'A16 à Transjurane entre Bienne et Boncourt. On espère bien entendu que toutes les interrogations de ce soir trouveront leur réponse prochainement. On ne manquera pas bien sûr de suivre ces évolutions. Bonne soirée à tous les deux.
Merci à vous aussi.
Place publique. Gabriel Devec.
Et il est bientôt 18h33, le temps de retrouver Jérôme Moutet, bonsoir.
Hey, bonsoir Gabriel.
Et vous, la 16, ça vous parle, hein, dans tous les sens du terme?
Oh, bah oui, ça me parle. Mais vous allez bien sinon, vous?
Mais moi, à merveille.
À merveille, oui. Alors la 16, ça me parle. Mais vous, Gabriel, est-ce que vous avez déjà pris la 16 dans son intégralité?
Eh bien, pas encore, mais comme beaucoup de nos auditeurs ou de nos internautes, j'ai pu la découvrir en primeur sur rjb.ch.
Oui, eh bien, de toute façon, personne n'emprunte cette autoroute dans son intégralité, Gabriel. Personne. Alors moi j'ai une question. Pourquoi faire une autoroute de Boncourt à Bienne alors que personne ne l'emprunte sur ce tronçon, hein? De Léman-Bienne, oui. Boncourt Porrentruy, oui. Porrentruy de Léman, oui. Moutier de Léman, oui. Mais Boncourt-Bienne, non. Alors là, ils sont forts pour claquer des sous dans le vide. Hein. C'est comme la tour Eiffel. Personne ne s'arrête au premier ou au deuxième étage. Tout le monde veut aller en haut. Alors pourquoi n'ont-ils pas fait uniquement un troisième étage? Personne n'a la réponse, c'est terrible. Vous le savez-vous?
Dites-le-moi.
Je vous le demande à vous. Justement, personne ne le sait. C'est comme chez la majorité de ceux qui nous écoutent. Si vous avez un escalier pour aller à l'étage, la marche la plus importante, c'est laquelle? C'est la dernière, celle qui nous amène sur le sol du haut. Alors pourquoi se taper les 22 marches précédentes? Pourquoi, hein? Bien pour ne pas avoir fait une seule marche. Pourquoi pas avoir fait une seule marche la dernière? Ça aussi, personne n'a la réponse, et pas vous, Gabriel, n'est-ce pas?
Vous parlez beaucoup du Jura, mais il y a quand même tout le tronçon du Jura-Bernois, cher ami.
Ah oui, alors excusez-moi, mais il a quand même fallu 30 ans pour faire la 16. 85 km d'une espèce de route cantonale améliorée. 30 ans pour faire 85 km. Alors heureusement que les coureurs du Tour de France n'avancent pas à ce rythme-là, sinon ils en seraient encore à la deuxième édition. Et que s'est-il passé ces derniers mois, ben, je vais vous le dire, comme dirait le 8e nain de Blanche-Neige. On a dû attendre 4 mois supplémentaires pour l'ouverture totale à cause des Bernois qui n'avaient pas fini les travaux sur un misérable secteur. Tout était OK, sauf eux. Alors imaginez bien, chers auditeurs, et vous Gabriel aussi, hein, car c'est un peu comme si Alain Morisot nous annonçait qu'il arrêtait la musique et partait en retraite au Groenland. Inch'Allah. Et là, paf, 4 jours avant de partir, il annonce qu'il continue 10 ans. Horreur, malheur. Ces 4 mois supplémentaires, alors que tout était OK, c'est comme durant l'acte sexuel. Et ça va vous parler aussi, Gabriel. Ça vient. Et au dernier moment, alors qu'il ne restait plus qu'un va-et-vient à faire, votre partenaire dit stop, reviens dans 4 mois. Ça vous est déjà arrivé?
Non, pas comme ça. Ben, je vous rassure.
Ouais, ben, ça va venir. Voilà ce que l'on a subi avec cette A16. Et c'est Bernois qui n'avançait pas. Par contre, oui, il faut le reconnaître, depuis quelques jours, on ne doit plus sortir de cette autoroute pour arriver dans un cimetière. Oui, un cimetière. D'ailleurs, j'enjoins nos amis neuchâtelois qui nous écoutent à prendre cette autoroute depuis Glovelier, direction Bienne, et sortir dans le village de Cours. Alors là, vous allez arriver sur un rond-point. Un rond-point décoré avec des pierres tombales. Allez voir. Alors on nous dit que non, ce ne sont pas des pierres tombales, mais des espèces de pièces mécaniques en l'honneur du tissu économique de la région. D'accord. Mais franchement, quand on arrive là, on se demande vraiment si le tissu économique de la vallée de Tavannes n'est pas majoritairement peuplé de pompes funèbres. Bon, je crois que j'ai assez dit de conneries, je vais prendre l'autoroute pour rentrer, et je vous souhaite, Gabriel et chers auditeurs, un excellent week-end, et comme dirait Rocco Siffredi, tant que ça pompe, c'est bien, mais il ne faut pas que ce soit funèbre.
Place publique.
La vision de l'A16, dans tous les sens du terme, par Jérôme Moutet. Merci beaucoup. Il est temps de passer maintenant aux élections neuchâteloises de dimanche dernier. Vont-elles bouleverser le paysage politique du canton ? D'un côté, la stabilité l'emporte au Conseil d'État. Le Grand Conseil, lui, par contre, est le théâtre de nouveaux rapports de force. Droite et gauche sont au coude à coude. La majorité est plus incertaine que jamais. Faut-il craindre des blocages ou au contraire, le Parlement en ressort moins polarisé et donc plus propice au compromis? On va en débattre avec trois journalistes, trois observateurs avisés de la politique neuchâteloise. À commencer par Stéphane Devaux, bonsoir.
Bonsoir.
Rédacteur en chef de l'Express et l'Impartial. Serge Jubin, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste et correspondant de l'Arc Jurassien pour le quotidien Le Temps durant 18 ans, jusqu'à récemment. Et Roger Guignard, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste à la RTS. Stéphane Devaux, on commence par vous. Gauche et droite font jeu égal, a priori. Si tant est que les partis du centre basculent à droite, qui, dans ces conditions, selon vous, détient le pouvoir ?
Ni les uns ni les autres, et en même temps, les deux. C'est-à-dire que, comme la majorité ne tient qu'à un fil, à un siège, ou voire à pas siège du tout, suivant les changements de camp possibles, je pense notamment au cas Chalande, chaque camp devra aller au-delà de sa propre famille politique pour constituer une majorité forte, ou en tout cas emporter l'adhésion sur un certain nombre de dossiers. Donc j'imagine qu'il faudra les regarder plutôt chez les autres, la droite du côté de la gauche du côté de la droite, pour constituer des majorités en fonction des thèmes, en fonction des sujets. Ça peut déjà se faire en commission, puis arriver en plénum avec une volonté de trouver un consensus, de trouver un compromis entre les différents partis politiques.
Roger Guignard, à entendre Stéphane Devaux, apparemment ça ouvre le jeu.
Oui, ça ouvre le jeu. Enfin, moi, je vois deux possibilités. Hein. La plus claire, la plus optimiste, c'est celle d'Alliance Nouvelle. Parce que voilà, le PLR et le PS devront en tous les cas apprendre à s'entendre davantage. Ou bien alors, et ça c'est plutôt le péril que je vois, c'est qu'on s'expose au risque de majorité de hasard. Parce que avec ce Parlement boitillant entre le 57-58, 58-57, j'ai l'impression que s'il n'y a pas une ossature solide gauche-droite, donc PLR-PS, alors là on va avoir des votes anarchiques, et je ne parle pas encore de la majorité qualifiée qui est requise d'habitude.
Donc, deux tiers de l'hémicycle, trois cinquièmes,
ouais, tout à fait. Donc 69 sur 115, alors là, c'est clair que ça va être encore plus aléatoire.
Vous partagez ces craintes, Serge Jubin. Est-ce que vous pensez que c'est l'ouverture, la porte ouverte à l'aléatoire ?
Alors, il faudra évidemment voir comment les choses vont se mettre en place. Moi, ce qui me paraît important, c'est que il serait bien de sortir de cette vision manichéenne, gauche-droite, parce qu'à part ça, il n'y a plus ni gauche ni droite, puisqu'on a des extrêmes qui ne sont plus forcément ni à gauche ni à droite. Le POP a divorcé du PS, l'UDC avec le PLR également. Et je crois que la vraie construction du Parlement neuchâtelois, ce sera de créer de nouvelles majorités, vraisemblablement en fonction des objets, des sujets, elles ne seront pas toujours identiques. Et le premier appel qu'on peut lancer, c'est finalement à ce que la plateforme gouvernementale, qui a plutôt bien fonctionné pendant 4 ans, elle se mette aussi en place, avec certainement des aménagements, avec certainement des compromis difficiles, mais qu'elle se mette en place aussi au Parlement.
Stéphane Devaux, est-ce que ce fameux centre qui se maintient avec les Verts libéraux qui ont certes perdu un siège mais qui quand même se maintiennent, le PDC aussi qui est toujours présent et ce fameux cas Chalande qui pourrait pourquoi pas être un siège en plus dans ce fameux centre, est-ce que c'est un non-événement ? Est-ce qu'en fait c'est une droite qui ne dit pas son nom ? Ou est-ce qu'au contraire on va avoir là une chance d'arbitrage ?
Sans doute. On a vu que les Verts libéraux, lors de la législature précédente, avaient plutôt bien endossé ce rôle, qu'ils avaient vraiment cherché à trouver des solutions constructives pour le canton. Bon, dans l'absolu, on reste quand même plutôt dans un bloc centre-droit. Il peut peut-être y avoir quelques voix dissidentes. Vous avez évoqué le cas du PDC Blaise Fiva, Chaudefonnier, qui de temps en temps pourrait avoir des positions très proches du PS. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'il faut quand même les rattacher au bloc de droite, même si on veut sortir un petit peu de cette logique de bloc ou d'affrontement de blocs, il n'en reste pas moins que idéologiquement, il se rapproche quand même du PLR en particulier. Pour ce qui est de l'UDC, mais on connaît leur situation aujourd'hui, je ne sais pas le poids qu'ils auront encore réellement dans le prochain Parlement.
Roger Guignard, avec justement cette déroute de l'UDC, est-ce qu'on ne peut pas tirer comme conclusion majeure que le Parlement s'est recentré et en ressort moins polarisé ?
Oui, moins polarisé, ça je suis d'accord. Je ne pense pas comme Serge Jubin que la distinction gauche-droite s'efface. Mais oui, moins polarisé, reste que, je le rappelais déjà dimanche, il y a 4 référendums qui sont dans le pipeline. Il y a le nouvel hôtel judiciaire, il y a l'impôt frontalier, il y a l'impôt sur les riches du POP, il y a la CCT 21. Et là, moi je veux bien entendre que les extrêmes sont affaiblis, qu'on devrait trouver des voies, mais le clivage gauche-droite restera sur ces questions-là et risque quand même encore de déchirer et de diviser.
Et ça prouve aussi, si je peux ajouter, que ça ne concerne pas uniquement le gouvernement et le Parlement. Donc dès le moment où le Conseil d'État obtient une majorité ou fait passer un de ses projets devant le Grand Conseil, il n'est pas sûr du tout de pouvoir passer à l'acte, travailler sur ce projet, puisque ces référendums viennent après, c'est les perdants du Grand Conseil ou des mouvements citoyens qui se mettent en place et qui font que le débat se poursuit sur l'ensemble du corps électoral.
Serge Jubin, apparemment, le Grand Conseil a beau être moins polarisé, peut-être, il est quand même rattrapé par le passé avec des référendums clivants qui vont devoir être débattus. Est-ce qu'au final, les résultats d'aujourd'hui, de dimanche dernier, auront finalement peu d'influence ?
Alors, je vois deux choses. La première, c'est que le clivage gauche-droite qui existe certainement encore, et on va le découvrir encore, c'était plutôt un appel que je lançais qu'un constat, il est parfois débordé par d'autres clivages qui sont autrement plus pénalisants ou paralysants. C'est les clivages régionaux, c'est les clivages lobbyistes, c'est les clivages syndicats, patronat, etc. Et tout cela pose vraiment un gros, gros, gros problème qui dépasse largement le cadre du Grand Conseil. Je crois vraiment que ces clivages qui dépassent la politique pour tenter de les supplanter ou de passer par-dessus, bah, peut-être que c'est aux politiciens de faire l'effort de dépasser eux-mêmes leur idéologie de base pour construire des consensus qui sont vraiment solides, qui sont défendus aussi. Il y a un paramètre peut-être qui est important encore. Les majorités sont une chose, les personnalités en sont une autre. Il faut espérer que le Grand Conseil, dans sa nouvelle version, comprenne des personnalités fortes qui parviennent non seulement à s'imposer dans leur propre groupe, mais aussi à créer des vrais consensus avec les autres groupes.
Oui, ce que dit Serge est assez important. Moi, j'ai l'impression, par exemple, pour revenir aussi à ce que disait Stéphane tout à l'heure, sur le NOJ, sur la CCT 21, enfin, sur ces sujets-là, sur le HNE aussi, pour le contre-projet gouvernemental, on a une majorité écrasante. Et après, les divisions sont ailleurs. Et dans une discussion que j'avais récemment, on me disait le Parlement ne joue pas assez son rôle de relais dans les régions pour porter les décisions qui, après, sont contestées, comme le disait Serge Jubin, quoi, par le patronat, par les syndicats. Enfin, on a l'impression qu'il y a deux étages quasiment systématiques. On adopte le projet assez facilement en Grand Conseil, et puis voilà qu'il est détricoté par un référendum, par la société civile, entre guillemets.
Sans parler des défis financiers qui seront aussi très sévères et très coûteux pour le canton de Neuchâtel, qui vont demander les traditionnelles coupes à gauche et à droite. Du coup, Stéphane Deveau, est-ce que vous pensez que dans ces débats-là, qui concernent vraiment et qui préoccupent la politique neuchâteloise encore pour quelques années, la donne d'aujourd'hui, le résultat des élections va changer quelque chose ?
Dans la plupart de ces débats-là, dès qu'il s'agit de montants financiers en jeu, il faudra une majorité qualifiée. Donc qu'on ait un 58-57 ou un 60-55, on est loin des 69 voix à obtenir. Donc, et de toute façon, pour qu'on arrive vraiment à réformer le canton, aussi sur le plan financier, pour le ramener à bon port, on ne peut pas se contenter d'un demi-parlement plus une voix. Il faut vraiment qu'il y ait une quasi-unanimité, en tout cas dans l'intention, pour mener à bien ces projets, parce que c'est l'entier de la classe politique qui doit porter ces projets-là, et pas juste une partie d'entre elles.
Serge Jubin, vous en appelez au compromis, mais est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait, ça n'aurait pas été plus souhaitable d'avoir une majorité plus franche, pour au moins mettre la barre d'un côté et pas de l'autre, avancer dans une direction, avoir un cap?
Non, je pense que il aurait fallu qu'un parti, certainement, puisqu'on voit que les alliances passées, pour autant qu'elles aient eu lieu, elles ne tiennent pas ou elles ne tiennent plus. Il aurait fallu qu'un parti ait lui-même les 69 voix du Parlement pour s'assurer d'une vraie majorité, ce qui n'est pas possible. Malgré sa forte progression, le PLR ne peut rien faire tout seul. Moi, je crois vraiment qu'il faut tenter de dépasser, finalement, ces vieux clivages qui paralysent le canton. Et si le canton est dans une situation difficile, c'est parce qu'il y a des clivages qui ne sont souvent pas dépassés idéologiquement. Et je peux me permettre de lancer peut-être un deuxième appel. C'est peut-être que tous ces partis politiques qui ont gagné, qui ont perdu, finalement se mettent autour d'une table et définissent peut-être une plateforme autour de laquelle une importante majorité peut se retrouver, peut-être sans les extrêmes, et que cette plateforme, cette majorité, ces états généraux politiques neuchâtelois permettent de dégager, à défaut d'une vraie majorité telle qu'on peut l'avoir par le passé, un consensus à la Neuchâteloise qui permette d'avancer dans les dossiers.
Des rencontres de Vatteville à la Neuchâteloise qui auraient peut-être lieu à Landeilleux, par exemple. On verra bien. En tout cas, merci.
Peu importe l'endroit.
Peu importe l'endroit. Merci à tous les trois, en tous les cas, d'être venus commenter ces résultats et nous dire un peu ce qu'elles induisent comme enjeu. On se réjouit de suivre vos comptes rendus respectifs soit sur l'Express, l'Impartial, avec vous, Stéphane Debeau. Serge Jubin, eh bien, nous, on vous regrette autant, mais on vous retrouvera ailleurs prochainement. Et Roger Guignard, à la RTS, évidemment, on ne manquera pas de vous écouter. Passez une bonne suite de soirée et bon week-end.
Bon week-end.
Bonsoir.
Bon week-end, merci.
Merci à tout le monde.
Place publique.
C'est aujourd'hui la Journée mondiale de la santé, une journée consacrée cette année à la dépression, une maladie très répandue puisque près d'un tiers de la population en éprouve les symptômes. Et pourtant, la dépression est encore trop souvent ignorée ou mal soignée. Une prise en charge déficiente qui peut avoir des conséquences graves pour les malades, leur entourage, mais aussi pour la collectivité qui doit assumer des coûts astronomiques. Alors comment faire mieux? Comment sensibiliser davantage tout un chacun sur l'importance d'une prise en charge? Pourquoi encore aujourd'hui la dépression est stigmatisée? Deux invités pour en parler. Yann Audet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes psychiatre et directeur médical au réseau de santé mentale du Jura bernois Bienzeland à Belley.
C'est ça.
Et Stéphane Wenger, bonsoir.
Bonsoir.
Psychologue et psychothérapeute, membre du comité de la Fédération Suisse des Psychologues. Alors, Yann Audet, le dernier monitorage de la santé psychique de la population suisse parle d'une situation à peu près stable, pas d'explosion du nombre de cas, le nombre de suicides non assistés reste stable, toujours plus de monde consulte ou consomme des médicaments. Est-ce que vraiment on sous-estime encore le problème ?
Oui, parce qu'on montre que globalement, pas seulement pour la Suisse, hein, mais c'est dans de nombreux pays, le taux de dépression qui ne sont pas diagnostiqués, c'est à peu près la moitié. Et la moitié de celles qui sont diagnostiquées sont traitées selon les recommandations minimales, c'est-à-dire pas forcément traitées de façon optimale. Donc il n'y a qu'un quart des dépressions actuellement qui sont traitées selon des recommandations minimales, ce qui fait peu par rapport aux conséquences de cette pathologie.
Stéphane Wenger, qu'en est-il dans ce que vous observez? Est-ce qu'aussi vous avez l'impression que finalement très peu de personnes qui souffrent de dépression sont prises en charge correctement?
Je pense qu'effectivement on a encore une sacrée marge de progression de ce côté-là. Et je vois trois points d'amélioration vraiment fondamentaux. Premièrement, la prévention, qui à mon avis doit encore être amplifiée, notamment dans les milieux professionnels. La question de la stigmatisation, alors c'est très bien qu'on en parle aujourd'hui et puis que l'OMS en ait fait le thème de sa journée, puisque à mon avis il y a encore un certain tabou qui plane et qui fait que les personnes dépressives ou qui ont d'autres troubles psychiques restent un peu trop seules. Et puis on a un vrai problème d'accès aux soins psychiques en Suisse. On sait qu'il y a de moins en moins de psychiatres, qu'il faut en moyenne 7 téléphones pour trouver un rendez-vous et puis que finalement un tiers des gens renoncent à pouvoir se faire traiter par un psychiatre. Et puis que les psychologues, eux, pour l'instant, ne peuvent travailler qu'en délégation, ce qui est vraiment un vrai problème, puisque les gens doivent raconter plusieurs fois leur histoire. Et puis nous travaillons en ce moment avec la Confédération pour que l'accès aux psychologues, psychothérapeutes soit plus facile.
Yannodé, à entendre Stéphane Wenger, on a l'impression qu'en matière de soins psychiques, on doit se contenter dans certaines régions de dispensaires, où c'est très compliqué.
Oui, effectivement, c'est compliqué. Mais on sait, les points qui ont été repris, effectivement, c'est des points importants. La prévention, c'est quelque chose d'important parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont déprimés, mais qui l'ignorent, qui sont juste mal, mais qui ne pensent pas que le fait qu'ils soient mal soit lié à une dépression. Notamment la prévention dans le milieu du travail. On sait qu'il y a beaucoup de. On parle beaucoup de burn-out, par exemple. Burn-out, ce sont des dépressions dans lesquelles on va attribuer sa dépression à des conditions de travail. Parfois, ça peut l'être, mais souvent, c'est très plurifactoriel, la dépression. Et les dépressions non traitées coûtent cher. Parce que quelqu'un qui est déprimé a à peu près deux fois plus de risques de mourir d'une maladie somatique pendant sa phase de dépression. Donc les gens qui pensent qu'on va juste se porter et serrer les dents, c'est pas forcément suffisant pour pouvoir aller bien. Quoi.
Mais on vient de l'entendre, ceux qui pensent qu'ils souffrent et qu'ils ont besoin de soins, eh bien c'est le parcours du combattant.
Oui, effectivement, il y a une difficulté à accéder. Il y a des efforts à faire pour essayer d'améliorer ça, avoir des dispositifs d'accès beaucoup plus faciles aux soins aussi. Mais moi, ce que je vois beaucoup, ce sont beaucoup des problèmes de repérage. Et souvent, des gens qui ont été mal pendant des années, mais on voit des fois des délits de dépression, parce que les gens qui vont mal n'ont pas envie, pour un certain nombre d'entre eux, de se reconnaître comme malade, parce qu'on se reconnaître comme malade, c'est penser qu'on est encore plus bas que bas. Il y a une peur par rapport au diagnostic psychiatrique.
Je voulais pas vous interrompre, mais disons que voilà, on n'a peut-être pas le temps d'informer les gens sur quels symptômes doivent les alerter. Mais Stéphane Wenger, pour savoir à partir de quel âge ou de quels symptômes il faut consulter, vu qu'il faut prendre évidemment son courage à deux mains, où c'est qu'on doit s'informer? Comment trier par exemple les informations dans la jungle du web? Quels conseils vous pouvez nous donner ce soir?
Je pense qu'il existe vraiment de nombreuses informations sur Internet quand même qu'on peut consulter. Il y a beaucoup de sites qui sont assez sérieux, comme la campagne de prévention « Comment vas-tu ?» ou alors d'autres sites comme « Santé Psy ». Et puis, il faut vraiment qu'il y ait une campagne d'apprentissage auprès des gens pour qu'ils apprennent à repérer effectivement les symptômes de la dépression. Il ne suffit pas d'avoir un peu de blues ou un cafard. Moi, je dirais que quand il y a une personne qui est vraiment dépressive, au bout d'un moment, ça se voit quand même. La personne est vraiment très ralentie, souffre beaucoup, est extrêmement triste, se coupe socialement, perd tout intérêt et tout plaisir dans la vie, a des problèmes de sommeil, d'alimentation. Et puis à ce moment-là, même si on n'a pas tous ces symptômes, une partie suffit, on est clairement dans une dépression et il faut consulter, peut-être demander conseil d'abord à son médecin généraliste ou même au pédiatre, parce que les enfants, les adolescents sont aussi atteints de dépression.
Il n'y a pas d'âge.
Et puis, non, il n'y a pas d'âge pour ça. On est vraiment affecté par cette maladie à tous les âges. Et puis, je parlais avant de déstigmatisation. Je crois qu'il faut vraiment essayer d'en faire une maladie. Comme on peut parler d'autres maladies, ça ne nous viendrait pas à l'idée de dire à quelqu'un qui a la grippe, vas-y, t'as qu'à baisser ta fièvre. Alors qu'on entend souvent ce discours pour les dépressions, allez, mais vas-y, sors, et puis c'est pas si grave, il y a plus malheureux que toi. Je crois que là, il y a un vrai travail pour accompagner les gens, et pour accompagner les gens pour accompagner les autres.
Yannodé, surtout que la dépression, ça se soigne, en tout cas si on vous croit, et on a envie de vous croire, vous faites passer le message que, bien souvent, si c'est pris à temps, 6 mois, ça peut suffire, ça représente 20 séances, dites-vous.
Oui, en moyenne, il en est des dépressions comme il en est des cancers. Si vous voulez. Il y en a qui se traitent bien, il y en a qui se traitent moins bien, mais on sait que la majorité des dépressions ont des traitements, alors soit des traitements médicamenteux à condition qu'ils soient mis à des doses efficaces et qu'ils soient sur des durées suffisantes, soit des traitements de type psychothérapie qui, en général, pour la grande majorité des dépressions, en un maximum de 20 séances, vous arrivez à résoudre l'état dépressif. Pour la majorité, bien sûr, il y a toujours des formes plus difficiles. Et il faut avoir cette idée vraiment que quand on est déprimé, on s'en sort. On s'en sort aussi sans traitement. Beaucoup de dépressions, 6 mois, 2 ans, s'en sortent seules. Mais c'est des fois au prix de beaucoup de difficultés de perte de travail, parce que la dépression s'entraîne des pertes de travail parce qu'on est moins efficace, au détriment d'accidents de la route. Quand on est déprimé, on a plus d'accidents de la route, on a aussi plus d'accidents de travail. Et des fois, avec des conséquences sur sa santé. Quand on est déprimé, on a plus de risques cardiovasculaires, par exemple. On a plus de risques de développer des maladies métaboliques comme du diabète. C'est des choses que les gens ne perçoivent pas, ça, mais qui pourtant sont importantes.
Et Stéphane Wenger, est-ce que vous rassurez vos patients une fois qu'on consulte? Est-ce qu'on consulte pour la vie? Ou est-ce que, parce que c'est une maladie chronique qui peut revenir, est-ce qu'on est toujours un peu sur le fil une fois qu'on a eu une première chute?
Non, on n'est pas toujours sur le fil. Donc on sait qu'à peu près une grande moitié des gens qui font un premier épisode dépressif n'en font plus dans leur vie. Et puis une petite moitié en font de nouveau. Et puis une psychothérapie, ça ne dure pas toute la vie. Effectivement, on a des chiffres qui arrivent à une moyenne de 20 à 30 séances pour se sortir d'un trouble psychique. Donc c'est vraiment un mythe de croire qu'on s'engage pour toujours.
Et bien on va en rester sur cette parole positive. Merci à tous les deux messieurs d'être venus dans Place Publique. Yann Audet, psychiatre et directeur médical au réseau de santé mentale Jura Bernois, Bienne-Zélande, à Belley. Et vous-même Stéphane Wenger, psychologue et psychothérapeute, membre du comité de la Fédération Suisse des Psychologues. Excellente soirée et bon week-end.
Merci, bonne soirée.
Au revoir.
C'est tout pour Place Publique. Merci à nos invités. Merci à Yannick Frossard pour la réalisation. Vous retrouvez cette émission sur nos applications et sur Internet, bien entendu. Bon week-end, à vendredi prochain.
Place Publique.